Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Coucou, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un peu spécial. C'est Nora et aujourd'hui je suis toute seule au studio. Je vous retrouve pour vous parler du Festival des Trois Continents de Nantes auquel je suis allée ce week-end en tant qu'envoyée spéciale de la super émission Popcorn en tant qu'accréditée presse. Donc le Festival des Trois Continents, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival de cinéma qui se déroulait cette année du 24 novembre au 3 décembre à Nantes et qui a pour concept de diffuser des films de pays qui ne sont pas forcément beaucoup distribués en France, provenant d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Donc le festival a été créé en 1979, quand les films non occidentaux étaient encore moins diffusés en France que maintenant. Ce festival a permis la reconnaissance de grands réalisateurs connus maintenant, comme l'Iranien Abbas Kiarostami, qui a réalisé notamment Le goût de la cerise, qui a eu la Palme d'Or, ou le Taïwanais Hu Hsiao-hsien, qui a fait un de mes films préférés qui s'appelle Millennium Mambo. Donc ça a permis leur reconnaissance en Europe. Et donc chaque année, un jury est choisi pour décerner le prix ultime de ce festival, qui est la Montgolfière d'Or, et ce jury est présidé cette année par Agnès Godard, une directrice de la photographie, qui a notamment travaillé avec la réalisatrice Claire Denis. Elles étaient d'ailleurs en conférence toutes les deux à Sciences Po en début d'année. Donc le festival fait aussi la part belle au cinéma d'art et d'essai de Nantes et de la Loire-Atlantique, dans lesquels sont diffusés des films, dans plusieurs cinémas indépendants, dont l'emblématique 14 à Nantais, dans lequel j'ai vu tous les films de la sélection. Donc en un week-end, j'ai découvert 7 films venant du Japon, d'Iran, de Hong Kong, d'Inde, du Cameroun et d'Argentine, et dont un film de patrimoine qui s'appelle Love in a Foreign City d'Hanoï, à l'occasion de la rétrospective qui lui dédiait le festival, ainsi que de 6 prochaines sorties en salle. Enfin, je ne sais pas s'ils vont tous sortir en France, en tout cas je pense qu'il y en a quelques-uns parmi eux, ceux qui ont eu des prix, qui sortiront forcément. Et tous ces films ne m'ont pas tous conquis, mais ils étaient tous d'une qualité indéniable et donnaient la part belle à un cinéma qu'on n'a pas toujours l'habitude de regarder, et qui est pourtant aussi innovant, attrayant et rayonnant. Donc j'attendais beaucoup. Moi au départ j'avais quelques attentes parce que je suis fan du cinéma d'Asie du Sud-Est plutôt, donc tout ce qui est Japon, Hong Kong, Taïwan, Corée. Et donc là j'avais repéré un film japonais et 2 films hongkongais. Et bah étonnamment, même s'il y en a un, vous le verrez, qui est quand même dans mon top 3, mais étonnamment c'était pas les meilleurs films j'ai trouvé. Même si c'était quand même des beaux films, hein, mais c'est pas ceux que j'ai préférés. Donc je vais vous épargner la description de chacun des 7 films que j'ai vus, parce que sinon l'épisode va durer 2 heures et personne ne voudra l'écouter. Mais je vais quand même donner tous leurs titres pour que vous le sachiez, avant de décrire seulement mon top 3 sur les 7 en faisant une petite critique et analyse. Donc les films que j'ai vus sont Flyon de Takuya Kato, donc un film japonais, Los Bilbao de Pedro Spero, un film argentin, Rapture de Dominique Sangmap, un film indien, Critical Zone de Ali Hamadzadeh, un film iranien, Le Spectre de Boko Haram de Cyril Ringou, tourné au Cameroun, Love in a Foreign City d'Hanoï, tourné à Hong Kong, et c'était un film de 1984, Talks of a Night de Chichi Tsu, un film hongkongais aussi. Donc il y a un quasi-respect de la parité avec 3 films sur 7 qui ont été faits par des femmes. Donc Talks of the Night, Love in a Foreign City et Le Spectre de Boko Haram. Donc maintenant, je vais vous faire un peu mon top 3, mon petit classement. Même si en soi, tous les films étaient bien et je pense que c'est forcément très subjectif parce que de ce que j'entendais des personnes dans les salles, ils n'ont pas forcément tous aimé les mêmes films. En plus, il y a un concept assez innovant à ce festival, c'est que le public reçoit avant chaque séance un papier que l'on découpe ensuite avec 4 notes possibles, donc 0, 1, 2, 3. 3 étant une très bonne note, enfin la meilleure note, et du coup, et 0 signifiant que le film ne nous a vraiment pas plu. Et donc, à la fin de chaque séance, il y avait des urnes et on déposait une des notes pour voter pour le film. Et donc, c'est marrant parce qu'on voyait les notes que les gens mettaient et on voyait qu'en général, tout était très différent. Les gens n'ont pas ressenti les mêmes choses, donc c'est normal hein, parce qu'on voit un film et une œuvre d'art en général, mais c'était assez marrant de voir que, enfin en tout cas je suis sûre que mon top 3 n'est sûrement pas celui des autres. Donc on va faire un top 3 décroissant en commençant par mon numéro 3, donc le film que j'ai le moins aimé de mon top 3 mais que j'ai quand même aimé, avant de finir par l'apothéose avec mon film préféré de ce week-end dans le festival, parce que j'ai pas vu tous les films non plus, il y avait encore d'autres films. Et il faut savoir que tous les films dont j'ai parlé sont les films de compétition officielle, parce qu'il y avait aussi des films en séance spéciale, notamment j'aurais bien aimé voir le dernier Ryusuke Hamaguchi, donc celui qui a fait Drive My Car et Conte du hasard et autres fantaisies. Donc son dernier film sort en janvier en France, et là était en séance spéciale dans ce festival, il s'appelle Evil Does Not Exist, je crois. Donc là c'est que des films de la compétition officielle, sauf Love in a Foreign City, qui est un film donc de la rétrospective Hanoï, mais les trois films dont je vais vous parler étaient dans la sélection officielle, dans la compétition officielle, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir le prix de la Montgolfière d'or, donc j'espère que un de ces trois films l'aura. Donc voilà. Le troisième film que j'ai préféré, c'est Flyon, ou Otsureru en japonais, de Takuya Kato, qui a d'ailleurs été présenté par son jeune réalisateur au début de la séance, et dont c'est le deuxième film. Donc c'est l'histoire d'une femme qui va perdre son amant dans un accident de voiture, son amant qui évidemment n'est pas connu de son mari, et de comment elle va vivre avec ça, des souvenirs qui vont revenir à elle, de comment elle va en parler, elle va finir par en parler à son mari, parce qu'il voit bien qu'elle va pas bien. Le réalisateur, en tout cas, nous a dit dès le début, parce que je ne pourrais pas me permettre de dire ça, je ne connaissais pas assez la société japonaise, mais le réalisateur nous a dit au début que c'est l'histoire d'un personnage ayant peu conscience d'être impliqué dans ce qu'elle est, et qu'au Japon, c'est un problème qui concerne la plupart des gens, car dans ce pays, il y a peu le sens des responsabilités, les gens se sentent peu concernés par les problèmes du pays, et il a cité des exemples, par exemple la politique, l'immigration, etc. Les gens ne se sentent pas concernés. Et donc, il voulait décrire ce problème global à l'échelle d'une épreuve intime vécue par un personnage en particulier. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un film très doux sur comment gérer le deuil, surtout quand on est dans le déni ou quand on ne le vit pas de manière classique, parce qu'on va voir que la femme que l'on suit dans le film ne s'effondre pas. Au début, au fond d'elle, on voit qu'elle sait que c'est son amant qui est décédé, parce qu'elle l'a quasiment vu mourir devant ses yeux. Mais en même temps, elle n'est pas sûre, et du coup, elle va faire comme si il n'était pas mort et continuer sa vie comme si de rien n'était. Donc c'est comment gérer un deuil et comment chaque personne vit un deuil différemment sans toujours répondre aux attentes de la société par rapport au deuil. Donc l'esthétique de ce film était très lumineuse et minimaliste. C'est un format 4 tiers, donc c'est quasi carré dans la forme du film. Et je trouve que ce format nous met vraiment plus dans l'intimité des personnages. Il nous en rapproche. Et le film est aussi assez court, donc ça rend son propos un peu plus percutant, et au moins il n'y a pas de falbala, de froufrou en trop. Dans le film, il vient assez à l'essentiel. Et je trouve que les films japonais n'ont pas leur pareil pour parler des sentiments enfouis qu'on ne peut pas décrire ou réaliser. Et je trouve qu'en cela, le film m'a fait penser encore une fois à Ryusuke Hamaguchi, on en revient à lui. Dans Conte du hasard et autres fantaisies ou Drive My Car, on retrouve un peu ces thématiques-là. Enfin, je ne dis pas du deuil, etc., mais plutôt de gérer ses émotions, de les cacher et de les enfouir, et pourtant de devoir un jour les dévoiler. Donc voilà, c'est un très joli film. Ça n'était pas un coup de cœur, mais vraiment, il vaut la peine d'être vu. Le deuxième film dont je vais vous parler, qui est mon numéro, ma médaille d'argent, c'est Los Bilbao, un film argentin de Pedro Speroni, qui raconte l'histoire d'un ancien boxeur et mafieux, en tout cas prêteur sur gage d'un village argentin, qui est sorti de prison après 5 ans en détention, et qui va retrouver sa famille, donc sa femme qui est enceinte de lui. Enfin, elle est enceinte après, évidemment, après l'avoir revue. Mais et la fille de sa femme, qui n'est pas sa fille, mais qu'il considère comme sa fille, et qui a bien grandi depuis 5 ans.
Quanto manca?
Un minuto. Cambio.
Pa, el bebé tiene frío.
¿Bebé? Mío.
No, bebé mío.
¿Cómo se va a llamar?
2000. 8000. ¿Está bien?
Sí.
3.500. 2.300.
¿Saben quién soy yo? Permítame presentarme. Soy Don Milau, el rey de todo. El más por la cacha, ¿cómo soy yo? Y estoy tranquilo. Nadie se mete conmigo. Reventé todos los tranzas. Todos los tranzas que hubo, los reventé. Bajé el grupo Halcón. Hice desastre. Nadie se mete conmigo, pero hoy en día estoy tranquilo.
Donc, c'est une sorte de documentaire qui est filmé parfois en caméra à l'épaule. Et on suit ces personnages, donc Ivan et sa famille. Ivan Bilbao, du coup, c'est leur nom de famille. Ivan et sa famille, donc Yamila, sa femme, la petite Luce, les parents, le bébé Annette. Et on suit aussi leur retrouvaille au plus près, avec un montage qui est très serré, nerveux, à l'image un peu d'un uppercut de boxe. C'est un ancien boxeur. Et on voit aussi qu'il nous montre en fait qu'Ivan, c'est en quelque sorte un prisonnier de ce retour à la vie civile. Il se cogne constamment à la normalité et parfois va même aller jusque dans des accès de rage pour montrer son désaccord. Donc j'ai trouvé que ce format était très touchant, qui nous donnait l'impression de ne jamais juger ses personnages, et ce malgré le fait qu'Ivan ne soit pas non plus une personne rangée ou classique. Et alors, cette impression de ne jamais juger ses personnages est montrée par le fait que Speroni, du coup, tient sa caméra à équidistance, souvent en plan séquence fixe, donc ça alterne avec caméra à l'épaule, mais aussi il y a des plans séquence fixes, et en étant une sorte de témoin des aléas de cette nouvelle vie de famille auquel les deux, à la fois Yamila et sa fille, et Ivan doivent se réadapter. Et donc, cette nouvelle vie de famille, à la fois entre coup d'éclat et éclair de tendresse. Donc j'étais super émue de ce film, touchée, alors même que beaucoup de gens dans la salle ont détesté. J'ai entendu, bon, il y avait pas mal de personnes, de personnes âgées dans la salle, et ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas trop compris que c'était un documentaire, ils disaient « c'est mal écrit ». Bon, après, chacun son avis, et c'est un avis possible sur ce film. Mais moi, justement, j'ai trouvé que c'était assez magistral dans la... Je sais pas, on a envie de suivre cette famille. On reste scotché devant, alors même que moi, je me disais, bon, j'y vais comme ça, etc. Je m'attends à rien. Le thème ne me parle pas spécialement. Ça parle de prison, etc. Et pourtant, on reste scotché devant ces images parce qu'on a envie de voir comment cette famille se reconstruit après tant d'années d'absence et comment elle se comporte. Et j'ai trouvé ça très touchant et voilà, je vous le conseille aussi. Et enfin, donc, mon film préféré de ce week-end festivalier, c'était Critical Zone, un film iranien d'Ali Hamadzadeh qui est son troisième film et qui a eu le Léopard d'Or à Locarno en 2023. Donc ça raconte l'histoire d'Amir, qui est un dealer de toutes sortes de drogues dans les rues de Téhéran et qui va être guidé par la voix féminine de son GPS. Et on va alors faire la rencontre de ses clients qui sont des femmes. Déjà, les films iraniens, moi j'aime beaucoup les films iraniens. Je trouve que c'est un cinéma magnifique qui a été connu du coup du grand public en général avec Abbas Kiarostami, dont on a parlé tout à l'heure. On connaît aussi Asghar Farhadi notamment. Et moi je suis une grande fan de Jafar Panahi qui a fait Taxi Téhéran, Trois Visages ou Hors-Jeu, un réalisateur qui tourne aussi dans la clandestinité pour échapper à la censure du régime islamique iranien, mais qui est plus documentaire que que là, le film de Hammarzadeh. Mais il y a quand même un côté similaire, notamment dans Taxi et Téhéran, pardon, et la galerie de personnages qui vont dans une voiture. Pareil, ça m'a aussi fait penser à Holy Spider ou Les Nuits du Mashhad de Ali Abbasi, qui était un autre film iranien qu'on avait vu avec Popcorn à Cannes en 2022. Et même s'il diffère beaucoup dans le sujet, ça parle des féminicides, etc., il y a toujours cette histoire d'explorer Téhéran en voiture la nuit, comme si c'était une redécouverte des entrailles d'une ville, voire d'une société qui vit quand les yeux ne la regardent pas et sont bien plus complexes qu'on ne veut nous le faire croire. Donc c'est un film, là aussi, pour en revenir à Critical Zone, c'est un film qui a été tourné en toute clandestinité, sans aucune autorisation, avec des caméras. Donc c'est un film qui défie le régime, c'est pour ça qu'il n'aurait pas passé la censure, en brossant le portrait d'une société iranienne qui est complètement déshabillée, qui se perd dans des paradis artificiels afin d'oublier l'âpreté de leurs conditions, notamment celles des femmes qui sont d'ailleurs majoritaires. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Parmi les clientes rencontrées dans le film, il y a notamment une scène avec une des femmes qui est une hôtesse de l'air, qui doit être une cliente régulière de Amir, et qui va se libérer en prenant de la drogue avec lui dans la voiture. Elle va simuler un orgasme après la prise d'un rail de coke, qui est d'ailleurs, je pense, la meilleure scène de simulation d'orgasme de l'histoire du cinéma. Encore meilleure que celle de quand Harry rencontre Sally, donc voilà, rien que pour ça, allez voir le film. Et ça dépeint aussi Amir, donc le personnage principal, comme une sorte de messie moderne, un guérisseur des âmes, un fournisseur de ce qui donne finalement du sens à la vie de ces passagers désabusés. Et on y rencontre en plus une myriade de personnages, qui sont des consommateurs réguliers, un assistant sur les vols de contrebande de retour d'un voyage à l'étranger, une mère à la mentalité conservatrice qui cherche à sauver son fils toxicomane en pleine dérive, un groupe de prostituées transsexuelles, donc rien que pour ça, c'est assez truculent. Puis aussi, en fait, la synthèse que je peux en faire, c'est le fait que c'est un film punk, c'est un road movie psychédélique qui s'affranchit de toutes les normes, c'est une petite révolution à lui tout seul, qui bouillonne en plus de trouvailles cinématographiques audacieuses à la fois. À un moment, il y a une caméra sur le coffre de la voiture, donc quand il ouvre le coffre, enfin le spectateur voit le plafond, et quand il le referme, on revoit la route derrière, donc j'ai trouvé ça génial. Il y a aussi la caméra fisheye qui va tourner quand il conduit, et, enfin vraiment c'est, et j'en oublie plein d'autres. J'y ai pensé à quelques moments, une critique qu'on pourrait poser, c'est qu'il se perd un peu dans ses trouvailles, il fait étalage de toutes ces petites astuces de cinéma, il y en a peut-être un peu trop, mais en même temps c'est assez savoureux de voir tout ça, voir cette imagination, cette inventivité débordante, c'est super stimulant, et ça en fait un film original et une sorte d'ovni en fait dans le paysage cinématographique. J'ai trouvé que ouais, ça bouillonne, c'est vivant quoi, voilà. Donc vraiment c'est un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas à voir un film qui me plaise autant, un vrai ovni, et à voir absolument. Je pense qu'il va sortir en salle dans pas trop longtemps vu qu'il a eu un prix etc, mais vraiment j'aimerais beaucoup, bon après je n'ai pas vu tous les films, mais j'aimerais beaucoup qu'ils reçoivent le prix, enfin la Montgolfière d'or, ou en tout cas un autre prix, que ce soit le prix du public ou le prix du jury jeune, parce qu'il y a un jury jeune aussi. Mais vraiment c'était un film excellent, voilà, exceptionnel. Je pense qu'il ne peut pas plaire à tout le monde, parce que comme tous les films punk et rebelles, c'est aussi un film étrange et qui a un propos politique. Enfin, j'étais avec une amie lors de cette séance qui n'a pas trop aimé, enfin elle lui a reconnu des qualités indéniables, mais elle n'a pas vraiment apprécié le film. Donc comme quoi, encore une fois, tout est subjectif, mais moi je vous le conseille énormément. Et donc voilà, j'espère que cette petite chronique, ce petit épisode spécial Festival des Trois Continents t'aura donné envie, un, d'aller voir ces films, deux, d'aller voir des films produits dans ces trois continents, donc Asie, Afrique, Amérique latine, et enfin d'aller au Festival des Trois Continents. Donc je pense que quand l'épisode sortira, il sera trop tard pour aller cette année, mais en tout cas l'année prochaine. Et en tout cas, je vous le conseille, ce festival et ses films, et j'ai été ravie de partager tout cela avec vous, et on se revoit bientôt, toujours sur Popcorn. Bisous.
Comment allez-vous, monsieur? Vous venez d'Afrique? Ah, ça c'est...